trouver des fonds pour développer la production de pectine ou financer des études sur les effets de la radiation sur l'homme, tel est l'objectif majeur des enfants de Tchernobyl. Yves Lenoir, président de l'association, au micro de Pascal Marcacci.
Nous, on agit pour aider un organisme qui s'appelle l'Institut de radioprotection Belrad, qui a été fondé en 1990 par Andrei Sakharov, le prix Nobel de la paix, et qui était le physicien nucléaire qui a inventé la bombe H, par Vassili Nesterenko, qui était un très grand responsable de l'industrie militaire nucléaire soviétique, et qui avait tout abandonné pour aller d'abord à Tchernobyl, qui s'est fâché avec les autorités parce que lui, il disait « il faut tout de suite évacuer à 100 km ». Il avait raison. Et qui a été gravement irradié à Tchernobyl et même contaminé puisqu'il était dans les hélicoptères pour observer ce qui se passait. Et c'est le dernier survivant des gens qui étaient dans les hélicoptères. Il est mort en 2008. Et Anatoly Karpov, le champion d'échecs, qui ont créé Belrad. Belrad, au départ, a eu de l'argent par le gouvernement belarusse. Et ils ont pu créer un grand nombre de centres qui couvraient, grosso modo, les régions les plus contaminées. Quand le gouvernement belarusse a dit « on ne peut pas continuer comme ça à payer autant », alors progressivement, l'argent a cessé d'arriver. Et Belrad s'est tourné vers des institutions européennes ou autres, américaines, tout ce qu'on veut, pour avoir de l'argent, qui était de l'argent souvent public. Mais simultanément, vous aviez le lobby nucléaire qui disait « tout ça, c'est inutile. On dépense de l'argent pour rien. » C'est leur stratégie depuis le début. Et il fallait absolument arriver à nier la réalité de Tchernobyl pour relancer l'industrie nucléaire. Elle a perdu, disons, 15 ans avec Tchernobyl, au moins, disons, 15-20 ans. Puisqu'on parle du grand retour du nucléaire que depuis quelques années. Donc, pendant 20 ans, c'était obscène de parler du retour du nucléaire. On le préparait, mais on faisait pas beaucoup d'affaires. Et donc, il fallait arriver à casser tout ce qui pouvait apporter de l'information de terrain crédible venant des régions contaminées. Ce que Belrad faisait. Belrad mesurait chaque personne avant une cure de pectine et après, pour voir l'effet accélérateur pour éliminer le césium de l'organisme par la pectine. Et au fil des années, un véritable atlas des contaminations personnelles des enfants et même de certains adultes, parce qu'ils ont mesuré environ 10% d'adultes, 90% d'enfants, a pu être établi. Qui a montré la complexité d'ailleurs des chemins par lesquels la radioactivité arrive dans l'organisme, qui dépend de la nature des sols, de l'adéquation entre les sols et les cultures, qui peuvent absorber plus ou moins les radioéléments en fonction de la nature du sol et de la culture elle-même. Bon, donc c'était pas évident au départ de relier une réalité radioactive de terrain avec une contamination personnelle. C'est ce qu'a fait Belrad pour sortir d'un espèce de modèle trop simpliste où on dit qu'il y a tant de radioactivité, les gens peuvent y habiter, il y en a un peu plus, là il faut les évacuer. Or c'est pas comme ça qu'il faut voir l'effet réel. Et ils accumulaient par dizaines de milliers chaque année de l'information qui montrait qu'il y avait des problèmes. Parce que quand on fournissait la pectine, les enfants allaient mieux, ils étaient moins malades. Bon, et puis simultanément, vous aviez Bandajewski qui expliquait les choses. Donc, il y avait une relation entre les deux. Et donc, tout le lobby nucléaire et de la radioprotection faisait pression sur les milieux officiels pour qu'ils arrêtent de financer. Et progressivement, les ressources sont taries. Et en 2001, c'était donc 15 ans après l'accident, ils étaient arrivés à un point où il y avait tellement peu d'argent fourni par les instances officielles qu'il fallait avoir un relais beaucoup plus fort du côté privé, du côté des ONG. Et c'est à ce moment-là que Solange Fernex, avec son mari, Michel, et un de leurs fils, Étienne, Vladimir Tchertkov, qui est l'auteur du livre « Le crime de Tchernobyl », les fameux films « Le sacrifice et les controverses nucléaires », et puis Nesterenko, Vassili Nesterenko, et Galia Ackerman, qui avait traduit le livre de Svetlana Alexeyevitch « La supplication », qui a beaucoup marqué l'opinion. Ces personnes-là ont fondé « Enfants de Tchernobyl Belarus » et ont sauvé Belrad. C'est-à-dire que Belrad aurait mis la clé sous le paillasson et une opportunité historique, hein, puisqu'on ne reproduit pas. Belrad a existé parce qu'à un moment donné, un homme, Vassili Nesterenko, a dit « il faut faire Belrad ». 15 ans après, si Belrad disparaît, personne ne reviendra pour dire « il faut faire Belrad », parce que les conditions historiques pour qu'on puisse refaire Belrad n'existent plus. Belrad aurait cessé d'exister et tout ce qu'on avait comme source d'information sur le terrain en Bélarusse aurait disparu. Information crédible, indépendante. Alors notre travail, c'est donc de collecter des fonds pour que Belrad puisse poursuivre ses activités. Alors bon, c'est pas facile. Hein. D'abord, sur le plan administratif, il faut avoir des accords avec les autorités belarusses. C'est très très strict. Ce sont des contrats de nature commerciale. On paye une prestation de service. Belrad assure un certain service, mesure de radioactivité, information de la population, distribution de pectine. Et nous fournit les rapports d'activité de cela. Et en fonction de la fourniture des rapports d'activité, on paye. Et ça peut se faire parce que c'est une prestation de service de nature humanitaire et scientifique. Ce sont les seuls que nous puissions faire. On s'est aperçu quelques années plus tard, autour de 2005, qu'il y avait un manque crucial de travail scientifique sur les conséquences génétiques de Tchernobyl. Le discours officiel, c'est qu'il n'y a aucune conséquence génétique. Forcément, il ne fallait surtout pas dire qu'il y avait des conséquences génétiques. Or, on le savait qu'il y en avait. Et qu'elles étaient très très mal financées, en tous les cas au Bélarus, puis ailleurs aussi d'ailleurs. Et comme on avait cette porte d'entrée au Bélarus, et que Michel Fernet avait de bons rapports avec le chef du laboratoire de sûreté génétique de Minsk, qui dépend de l'Académie des sciences, le professeur Rosa Goncharova, on a financé l'achat de matériel de pointe pour ces études de génétique. Donc depuis 2007, on a fourni pour 40 000 euros de matériel pour aller plus loin que les études qu'ils avaient faites antérieurement, qui étaient sur des petits rats, qui avaient montré qu'il y avait des séquelles qui se transmettaient de génération en génération sous forme de ce qu'on appelle d'instabilité génomique, qui laisse très mal présager de la suite, hein, puisque ça se transmet de génération en génération. Ça ne s'atténue pas. Il faut maintenant transposer ce genre d'études aux hommes. Maintenant, il y a trois générations depuis Tchernobyl. Il y a celle qui vivait au moment de Tchernobyl, celle qui a conçu au moment de Tchernobyl, et puis ceux qui ont été conçus au moment de Tchernobyl, qui maintenant font des enfants. Donc on a trois générations. Mais les hommes, c'est beaucoup plus cher à étudier que les rats, parce que les rats, vous les avez dans une cage, hein, vous voulez faire une mesure, vous chopez le rat, vous faites un prélèvement de sang, vous observez au microscope la réplication des cellules, et vous avez tout de suite l'information sur l'instabilité. Pour un homme, on ne va pas le garder en cage, c'est multiplié par 10 le coût. Et là, ça dépasse nos moyens. Donc nous cherchons des fondations qui pourraient financer ce type d'études. Donc on a deux activités simultanées. D'une part, entretenir un groupe de donateurs et d'adhérents et l'étendre pour augmenter les ressources de Belgrade, qui pour l'instant n'intervient qu'auprès, disons, grosso modo 30 000 à 50 000 enfants, alors qu'il y en a, en gros, disons, 500 000 à 700 000 qui sont concernés. Bon, ils ont ciblé, avec 20 ans de recherche, 400 000 mesures sur le terrain, ils ont ciblé les groupes à risque. Et c'est ceux-là qui ont la priorité pour les soins, pour fournir l'information, pour donner le matériel de mesure de radioactivité de la nourriture, pour distribuer la pectine. Mais c'est le minimum, mais c'est pas suffisant. Hein. Il faudrait en gros 10 à 20 fois plus de moyens, ce qui supposerait une très grande sécurité dans la collecte des dons, puisque ce sont des gens qui travaillent à plein temps, donc ils sont salariés, ils ont du salaire de misère, mais ils sont salariés, et si l'argent n'arrive plus, ils doivent licencier. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs au fil du temps. Hein. Ils ont dû améliorer leur productivité. Au départ, il faut reconnaître que c'était un peu soviétique comme méthode. Hein. Celui qui conduisait le camion ne faisait pas de mesure. Il faut améliorer la production de pectine, qui est pour l'instant trop artisanale, alors que c'est pas cher.
C'est de la pomme.
Eux, ils la font partir de la pomme, mais en Russie, ils la font partir d'algues. Beaucoup de légumes contiennent de la pectine. Elle est plus ou moins facile à extraire. Elle correspond plus ou moins à la qualité qu'on recherche dans la capacité à phagocyter les métaux lourds dans l'intestin pour les éliminer, puisque le sang, au moment de l'échange, passe les métaux lourds à la pectine. Ils ne repartent pas dans le sang. C'est comme ça qu'on accélère. Si vous absorbez du césium et que vous faites rien d'autre que d'attendre que le temps passe, il faudra environ 5 mois pour éliminer la moitié de ce que vous avez absorbé. Avec la pectine, il en faut en gros 3 semaines, un peu moins, même 15 jours quand la cure est bien ajustée. Donc ils font la pectine avec ça, mais malheureusement, il faudrait moderniser l'installation. Ça coûte pas cher, hein, il faudrait 17 000 euros. Eh bien, on n'arrive pas à les avoir. Je n'ai pas trouvé une seule fondation qui voulait bien fournir 17 000 euros pour un investissement. Ce n'est pas du fonctionnement, c'est vraiment un investissement qui permettra de distribuer la pectine à hauteur de la demande.